franceinter.fr.
Voici la revue de presse, donc bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
On commence par un voyage.
Oui, c'est fou ce que tous les 5 ans on redécouvre la France, les Français, nous et comment nous vivons. Le magazine Society n'échappe pas à cette règle d'airain de la présidentielle et nous emmène donc ce matin dans un voyage au cœur de la France. Très beau portfolio du photographe toulousain Pablo Baquedano dans les Ardennes. Témoignage de Français qui s'avouent heureux, c'est pas si courant. Yolande, par exemple, 27 ans, qui dit « En tant que femme noire, en vrai, il n'y a pas de meilleure époque que l'époque où je suis en train de vivre. » Plongée dans l'un des quartiers les plus pauvres de France, le quartier Saint-Jacques à Perpignan, terreau idéal pour l'extrême droite, un gitan qui se sent abandonné de tout slash. On n'adhère pas à ces idées au FN, mais on va se venger. Et puis, un retour en Hollande. Un retour en fait dans quelques-uns des 7 villages qui en 2012 ont apporté 100% de leur voix à François Hollande. Comme il l'avait fait d'ailleurs pour Mitterrand en 81 et 88. Plusieurs de ces villages se trouvent dans l'Aude, bastion historique du PS. Depuis qu'un certain Jean Jaurès était venu en 1907 défendre les intérêts des vignerons locaux. Alors 5 ans plus tard, ces vignerons et les pelutes, comme on les appelle ici, les 68ards, les bobos et autres anglais qui peuplent désormais Méronne ou Viltry-Toul sont comme beaucoup d'électeurs de gauche. Le discours du Bourget, il leur reste en travers de la gorge. Franchement, ça ne va pas me faire grand-chose de décrocher la photo de Hollande prise par Depardon, lâche même le maire de Viltry-Toul. Ici, les habitants sont au premier rang pour observer la disparition des services publics et des petits commerces. Alors le 23 avril, ils vont faire quoi ces habitants? Stéphane et Claudine Chevrier assurent qu'ils continueront à voter à gauche, oui, mais pour qui? Macron traîne son passage à la banque Rothschild comme un boulet. Hamon dévalorise la valeur travail, disent-ils. Mélenchon parle trop et trop fort. Un second tour, Fillon-Le Pen les laisse indifférents. D'autres ont carrément basculé. Une élue affirme que pour la première fois de sa vie, elle va voter Front National. Un parti donc qui s'étend par petites touches dans les corbières. Instantané de villages français où se posent les mêmes questions que partout ailleurs, sous la plume de Victor Legrand et Antoine Mestre dans le quinzomadaire Society.
L'hypothèse d'une victoire du Front National provoque des débats de conscience.
État FN, servir ou résister. Dossier à retrouver dans l'Obs cette semaine, signé Mathieu Delahousse, parti à la rencontre des hauts fonctionnaires qui s'interrogent. Début mars, l'ambassadeur français du Japon, Thierry Dana, avait publié une tribune dans Le Monde pour dire qu'il préférait renoncer à occuper ses fonctions plutôt que de servir la diplomatie du front. D'autres, parmi les préfets, les magistrats, les dirigeants d'office public, sont agités par ce même questionnement intime, assurer la continuité de l'État ou entrer en désobéissance civile. Beaucoup s'appuient sur leur devoir de réserve pour ne pas se prononcer aujourd'hui. Certains mettent en avant leur boussole, la loi de 83 qui dit qu'un fonctionnaire doit refuser un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l'intérêt public. La plupart avancent la résistance intérieure, plus efficace, disent-ils, même si quelques-uns conviennent qu'il pourrait y avoir des réactions individuelles à un tel cas de figure. Le précédent souvent cité est celui de 1981, quand certains représentants de l'État avaient considéré qu'ils ne pouvaient pas servir un gouvernement socialo-communiste. Philippe de Villiers en faisait partie à l'époque.
Il était préfet.
Sous-préfet, devant l'homme. Autre dilemme, faut-il exprimer ou non leur inquiétude face à l'éventualité d'une victoire de Marine Le Pen? Un courrier électronique s'échangerait entre hauts fonctionnaires actuellement. Le nom de Paul Didier, seul magistrat à ne pas avoir prêté serment au régime de Vichy en 41, circulerait pour baptiser un éventuel collectif. Mais pour beaucoup, le « no passaran » est un slogan, pas une parole de responsabilité, disent-ils. Dans ce dossier de l'Obs, en fait, seul Serge Portelli, président de la Chambre à la Cour d'appel de Versailles, dit clairement, publiquement, peut-on rester magistrat si le FN est au pouvoir et que l'état de droit est totalement dégradé? Non, répond-il, je ne servirai pas un État Front National, je démissionnerai.
Un mot encore sur la campagne présidentielle avec un autre candidat, Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon qui a donné hier soir à Lille le plus grand meeting de cette présidentielle dans la région, raconte ce matin dans la Voix du Nord Laurent Decote, près de 20 000 personnes, beaucoup plus qu'Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Le journaliste reprend l'essai ironique du candidat contre ses adversaires ou les médias qui se sont déchaînés depuis hier contre lui. Demain, il pleuvra des grenouilles et les chars de l'armée rouge seront chez nous. Mais le journaliste a l'air d'avoir été marqué par ce qu'il appelle la dialectique conflictuelle entretenu par Jean-Luc Mélenchon. Nous d'un côté, ils de l'autre, sans qu'on sache toujours exactement qui sont ces ils. Et puis à l'endroit de Macron, Fillon et Le Pen, si vous élisez un de ces trois-là, vous allez cracher du sang. Un Mélenchon qui s'est voulu rassurant, même si parfois, trois petits points laissés en suspension par le journaliste. Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas que des contempteurs. Deux curieuses bénédictions ce matin. L'hebdomadaire d'extrême droite, Minute, qui titre « Le tribun Le Pen a trouvé son héritier », Mélenchon. Jean-Marie Le Pen acquiesce et se voit en précurseur du candidat de la France Insoumise dans sa façon de tenir ses meetings. Et puis, celle de Patrick Buisson, l'ex-conseiller très droitier de Nicolas Sarkozy. Dans le point, il salue l'évolution idéologique du candidat. Mélenchon est plus chrétien que Fillon, ou encore le peuple avancé par Mélenchon a évolué, il est devenu le peuple enraciné, se réjouit-il. Un soutien un petit peu embarrassant dans son blog. Jean-Luc Mélenchon rappelle que Buisson et lui, ils se connaissent à peine et qu'une roborative antinomie intellectuelle les oppose.
Laurent Berger, c'est devenu un point de clivage à gauche, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui dans cette campagne. Vous avez un mot à dire sur à la fois ses positions et sa position aussi aujourd'hui dans le à 10 jours du premier tour.
Sur ses positions, c'est un secret pour personne que j'en partage quasiment aucune.
Quasiment aucune.
Écoutez, sur sa vision européenne, moi je pense que un des sujets principaux c'est l'Europe demain et la façon dont on est capable de la réformer pour qu'elle soit plus citoyenne, plus sociale, mais c'est pas sûrement pas avec les propositions de Jean-Luc Mélenchon que ça peut se faire. Et puis moi je pense qu'il je vous le dis franchement, il y a aussi un risque en termes d'une vision assez totalitaire. Moi je suis un peu inquiet des discours très guerriers qui sont employés parfois dans les discours politiques. Vous savez, j'ai été frappé hier de l'intervention de son porte-parole sur le Venezuela. On y est allé au Venezuela pour soutenir le syndicat libre.
Son directeur de campagne.
Le syndicat libre vénézuélien. Aujourd'hui, on a un pouvoir qui, depuis Chavez, a saigné le pays. Évidemment, a redistribué au début, parce que quand il est arrivé, il y avait la manne pétrolière. Mais n'a jamais investi, ni dans le pétrole, ni dans l'investissement autre, ni dans la population. Et aujourd'hui, on a une population extrêmement pauvre qui vit sous un régime totalitaire. Donc, je le dis, je ne fais pas de comparaison hâtive, mais il y a un risque aussi d'une vision assez brutale des rapports humains et des rapports sociaux et des rapports politiques que porte parfois Jean-Luc Mélenchon.
Pardon, vous l'avez fait cette comparaison, Laurent Berger, en employant l'adjectif totalitaire. Donc, vous l'accusez ou vous le soupçonnez, Jean-Luc Mélenchon, de viser antidémocratique en employant ce mot.
Non, mais en tout cas, non. Mais je sais aussi ce que sont parfois les comportements et les attaques que nous avons subies de la part de gens qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas d'accord, on n'est pas un ennemi. Je crois que c'est important dans une démocratie. Et je pense, mais il n'est sans doute pas le seul, mais en tout cas, parfois, il y a des discours qui donnent à penser qu'il y aurait des ennemis, ceux qui ne penseraient pas comme lui. C'est dangereux, vous l'avouerez quand même, non ?
On termine, Hélène, la rue
de
presse.
Juste pour vous conseiller sur le site lesjours.fr, le reportage photo d'Antonin Weber, accompagné du journaliste Olivier Bertrand, tourné au cœur d'un journal en résistance, Cumhuriyet, un des derniers médias indépendants de Turquie. 11 de ces journalistes sont aujourd'hui en prison. Et comment mieux comprendre la censure, la répression, qu'en observant les chaises vides des journalistes de la rédaction? C'est toute la force d'une photo. Je vous rappelle que le référendum en Turquie, c'est dimanche.
Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse.